Bourse, le pivot de la Fed, c'est cette semaine. Semaine S pour la Réserve fédérale des États-Unis. Doit-on craindre cet événement? Cela sera-t-il un événement favorable pour le marché action et le marché obligataire? Doit-on craindre ou pas un jumbo Fed cut? Chers amis, point complet sur cet événement monétaire le plus attendu des 2 dernières années. Je suis ravi de retrouver une nouvelle édition du Top Gun. Alors ça y est, on y est. On y est. Ça y est, la Fed va pivoter cette semaine. Enfin, dernière des banques centrales occidentales à le faire. Engageant ces prochains mois, donc un cycle baissier de ces taux d'intérêt, est-ce que cela sera favorable au marché action ou au marché obligataire? J'ai déjà traité le sujet dans le Top Gun il y a 2 semaines en vous proposant un tableau synthétique des cas possibles du pivot. Cette semaine, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut suivre dans les éléments que la Fed va mettre à jour ce mercredi. La raison du pivot, l'amplitude de la baisse des taux, le rythme à venir de la baisse des taux d'intérêt. Énormément de facteurs vont influencer l'impact sur le marché action et le marché obligataire. Et déjà, la première chose à savoir, va-t-on avoir un jumbo Fed cut ou pas? Je vais revenir aussi sur les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Oui, la désinflation se poursuit aux États-Unis. Oui, le chiffre était bon la semaine dernière. Il a été interprété négativement par la Doxa. Et vous allez voir, les perspectives sont toujours bonnes en matière de désinflation. Et finalement, c'est une bonne nouvelle que la Fed ne pivote pas trop agressivement cette semaine, car il est peu probable cette semaine que nous ayons un jumbo Fed cut. Qu'est-ce que c'est qu'un jumbo Fed cut? Nous en aurons peut-être d'ici la fin de l'année. Le jumbo Fed cut, c'est une politique monétaire qui devient accommodante de manière assez brutale. Ce serait des coupes de taux supérieures à 25 points de base, 0,25 points de pourcentage, de manière peut-être un peu urgente. Bon, le marché ne veut pas d'urgence, le marché n'aime pas l'urgence. Il aime le calme, la tranquillité, la visibilité. Donc une Fed qui pivote, mais pas comme elle fit à l'époque en sens inverse, en 2022, en mode on n'a plus le contrôle de l'inflation, on monte les taux par palier de 25 points de base. Non, voilà, on veut une baisse de taux calme, sereine, tranquille, pour pouvoir apporter du soutien au marché action et au marché obligataire. Donc là, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut suivre mercredi. C'est pas simplement la baisse de taux, le communiqué de presse, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans le communiqué de presse? L'amplitude de la baisse de taux, la mise à jour des perspectives macroéconomiques de la Fed. Je vais bien sûr aussi vous parler de la fin, ou en tout cas presque la fin de l'inversion de la courbe des taux. Doit-on craindre la fin de l'inversion de la courbe des taux? Effectivement, historiquement, la fin de l'inversion de la courbe des taux pouvait se traduire par une récession, mais là, c'est plus compliqué que ça. Encore une fois, nous en revenons à la raison de la fin de l'inversion de la courbe des taux. Elle n'est pas encore totalement désinversée. Hein. Bon, le point technique marché action, le point technique marché obligataire. Et puis voilà, les amis, c'est parti, on attaque. Bourse, le pivot de la Fed, c'est maintenant. Doit-on craindre un jumbo Fed cut? Ce sera le terme de ce lundi, parce que je trouve que ça fait classe, jumbo. Bon, jumbo, ça veut dire massif, ça veut dire, voilà, on modifie la politique monétaire, alors rate, Fed cut, voilà, de manière ample, rapide, un peu urgente, c'est pas bon ça. Peut-être que d'ici la fin de l'année, nous l'aurons. Mais là, nous voulons, le marché, la haute finance souhaite avoir de la tranquillité d'esprit pour cette semaine du 18 septembre, à un moment où l'on a pu croire encore il y a quelques jours que la Fed pivoterait peut-être parce que le marché du travail se dégraderait massivement. Bon, finalement, on voit que globalement le taux de chômage reste assez bas. Je vais reprendre ça avec vous. La désinflation, oui, la cible de la Fed est en vue. Oui, la semaine dernière, le taux d'inflation nominale est tombé à 2,5. Je vais un peu vite. Le programme s'affiche donc sous vos yeux. La Réserve fédérale des États-Unis va donc pivoter ce mercredi 18 septembre. Enfin, un pivot qui intervient après les autres banques centrales occidentales et qui soulève de nombreuses interrogations. N'oubliez jamais ici de faire la liaison avec le Z. Événement monétaire le plus attendu comme nouvelle favorable depuis de nombreux mois, le pivot de la Fed fait craindre à certains une chute du marché action. Voilà que nous sommes passés d'un événement attendu depuis des mois comme le Saint des Saints, la libération, pour permettre au marché obligataire notamment et aussi au marché action de progresser, de pumper, de monter. Et voilà que cet événement est craint, comme peut-être étant la sanction d'une possible récession économique. En fait, tout est là. On peut toujours essayer de se mettre à la place dans la tête de Jérôme, l'ami Jérôme. Mais nous ne savons pas finalement ce qui est. Vous savez, dans son dernier communiqué de presse, la Fed, bon, ça paraît très loin maintenant. Jérôme Powell nous disait, pas de problème sur le marché du travail, le taux de chômage est archi bas. Globalement, c'est vrai, il n'a pas tort, le taux de chômage reste bas. Le taux de chômage aux États-Unis est bas. Mais il y a sa valeur et puis il y a sa tendance. Et il se retourne à la hausse. Alors, heureusement, Le dernier rapport NFP a vu une baisse du taux de chômage. Il ne répond pas à la question de savoir si on est en récession ou pas ou si la probabilité de récession a augmenté. Oui, la probabilité de récession a augmenté, certes, mais si une probabilité augmente, ce n'est pas 100% non plus. Et en même temps, la désinflation se poursuit. Vous allez voir. Vous allez voir. J'ai hyper confiance. Les mises à jour de l'inflation sur les mois d'octobre, novembre, décembre vont être hyper favorables. Bon, alors c'est parti les amis, donc on revient au vif du sujet. Donc oui, alors première partie, le pivot de la Fed, un événement à la fois favorable et redouté. Je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut suivre ce mercredi pour déterminer, déchiffrer ce que va nous livrer la Fed et savoir si cet événement doit être interprété comme favorable ou comme un oiseau de mauvaise augure. Alors comme d'habitude, la raison du pivot de la Fed est le facteur fondamental dominant. Pour actions et obligations, surtout pour les actions, je dirais, parce que les obligations sont plus ou moins gagnantes dans tous les cas. Pour le marché actions, c'est plus compliqué. La fin de l'inversion de la courbe des taux, ou proche de se désinverser, enfin de revenir finalement à une pontification normale, hein, avec des taux longs supérieurs à des taux courts, historiquement, c'était le signal d'une récession et derrière un marché actions qui dropait. Sauf que là, elle n'est pas encore tout à fait désinversée et que vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Mais il faut en tenir compte. Indice boursier S&P 500, obligation analyse technique. Vous avez le plan habituel. Pivot de la Fed, un événement à la fois favorable et redouté. Après la plupart des autres banques centrales occidentales, la Réserve fédérale des États-Unis devrait enfin pivoter ce mercredi 18 septembre. Cet événement monétaire est attendu depuis de nombreux mois, car le taux d'inflation US tend vers la cible de la Fed et que le marché du travail US se dégrade légèrement. Alors, c'est un événement très attendu parce que souvenez-vous, la hausse des taux d'intérêt du marché avait été la source du marché baissier de l'année 2022 pour le marché actions et pour le marché obligataire. Vous avez mis ici un graphique qui superpose en bougie japonaise le S&P 500, en vert le taux d'intérêt des fonds fédéraux, donc le taux d'intérêt de la Fed. Taux d'intérêt des fonds fédéraux, c'est pour faire intelligent. En bleu, le taux obligataire américain à 2 ans. En rouge, le taux obligataire américain à 10 ans. Et nous savons effectivement que globalement, les phases bullish du marché action, en général, sont en parallèle d'une baisse des taux d'intérêt du marché et de la Fed. Par exemple, la phase d'appréciation ici du Covid, c'était tout ce beau monde à zéro. Alors nous savons aussi que les taux d'intérêt du marché anticipent les taux de la Fed. Donc effectivement, là, les taux d'intérêt du marché ont commencé la baisse. On sait que les taux de la Fed vont maintenant baisser par palier. Nous savons que le bear market de 2022, où il y avait eu cette superbe épaule-tête-épaule, avait été du fait de l'envolée verticale des taux et que la reprise du marché à actions ces derniers mois est due non pas à la baisse des taux, mais aux taux qui ne montaient plus. Maintenant, les taux vont chuter. C'est ce qu'attendait le marché depuis longtemps. Et voilà que des craintes arrivent, les taux vont chuter, le marché à actions va dropper parce que si les taux chutent, c'est la fin de l'inversion de la courbe des taux, c'est la récession. Non, les amis, c'est un cas de figure possible. Je l'ai listé dans mon tableau il y a une semaine, je vais reprendre ça avec vous. Mais ce n'est pas mécanique. Donc, nous en sommes là. Et nous attendons donc cette semaine que cette petite courbe verte ici commence à engager donc une trajectoire baissière venant s'aligner sur les taux d'intérêt du marché qui, eux, ont toujours de l'avance car ils sont dans l'anticipation du cycle monétaire, du cycle des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, de manière donc assez inattendue, la perspective d'un cycle baissier du taux d'intérêt des fonds fédéraux n'est plus automatiquement vue comme une bonne nouvelle pour le marché action. En tout cas, du côté des perma-bears, c'est l'espoir qu'ils ont. C'est-à-dire que ce pivot de la Fed vienne sanctionner une récession et donc vienne appuyer à la baisse sur le marché action. Dans tous les cas, si vous n'aimez pas shorter le marché, car ils auront peut-être raison, n'oubliez pas que si vous restez plutôt du côté des long only, vous pouvez acheter des obligations qui, elles, ont un potentiel de hausse de 20 à 30% à horizon 1 an. Alors, le pivot de la Fed est jugé trop tardif, eu égard à la dégradation estivale du marché du travail américain et avec une désinflation qui était quand même bien engagée. Alors, il est vrai, c'est une réalité. Il est vrai que le taux de chômage aux États-Unis s'est retourné à la hausse, et notamment cet été, avec désormais donc 7 millions 100 000 chômeurs aux États-Unis, en légère baisse par rapport au précédent rapport NFP. Cela rappelle les précédents retournements haussiers, les phases grisées étant ici les phases de récession. Bon. C'est le cas depuis maintenant plus de 40 ans. La chose, c'est que le marché, ici, le taux de chômage peut très bien se mettre à dériver à plat. Hein. C'est pas parce que systématiquement, plusieurs fois dans le passé, on s'est retourné à la hausse en faisant comme ça, que le taux de chômage fera la même chose. Mais c'est effectivement une crainte. Alors, jugé un peu tardif, parce que la désinflation est quand même bien engagée. Alors, même si les taux d'inflation sont mis à plat, alors, oui et non. Si vous voulez, si vous prenez le taux d'inflation nominal US selon le CPI mis à jour la semaine dernière, il est tombé à 2,5. Il est quand même au plus bas depuis début 2021. Il est quasiment revenu au monde d'avant. Alors oui, effectivement, l'inflation sous-jacente ne baisse pas. Elle est restée stable à 3,2. Mais elle baisse pas parce que c'est la faute de ça. L'inflation immobilière shelter qui est rebondie à 5,2. L'inflation immobilière, avec son rebond à 5,2, c'est 70% du fait que l'inflation sous-jacente n'est pas baissée. Sauf que cette inflation immobilière à 5,2, c'est du vent, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi, c'est de la méthodologie. C'est un indice d'inflation complètement. En fait, la façon dont la composante immobilière est calculée, elle a 6 à 8 mois de retard sur les données temps réel. Or, nous savons, à travers plusieurs indicateurs temps réel, et notamment les nouveaux contrats de location, en plus ce sont des chiffres du bureau du ministère du Travail américain. Nous savons que l'inflation immobilière, l'inflation des loyers immobiliers est revenue à zéro, ce sont les données temps réel. Nous le voyons à travers le US New Tenant Rent Index, elle est revenue à zéro, et c'est un chiffre du ministère du Travail aux États-Unis. Nous voyons aussi l'inflation immobilière, housing, shelter, tout ça c'est pareil, qui est revenu aussi donc à 0 ici, 0,44 selon Trueflation. Donc, nous savons que tôt ou tard, la composante immobilière du CPI et du PCE qui est ici va dropper. Donc effectivement, la semaine dernière, ça a surpris tout le monde ce petit pump ici, ce petit rebond de l'inflation immobilière. Mais ça va baisser. Ces prochains mois, ça va baisser. Et la contribution de l'immobilier au CPI, elle dépasse 30%. Donc, j'ai aucune inquiétude sur le fait que nous aurons la reprise de la baisse de l'inflation sous-jacente. Et puis, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles. L'inflation des nouveaux véhicules qui s'enfoncent en territoire négatif, l'inflation des appareils qui est à zéro. Donc, tout ça montre que, d'ailleurs, Trueflation ne ment pas. Trueflation est quasiment à 1%. Et ce n'est plus qu'une question de temps, mois après mois. Parfois, il peut y avoir un décalage de 6-8 mois pour que toutes ces données temps réel viennent appuyer à la baisse sur l'inflation sous-jacente. L'inflation nominale, il n'y en a plus. L'inflation nominale, vous allez voir que dès novembre, all items, elle est à la cible de la Fed. Donc, effectivement, nous avons un marché du travail qui se dégrade légèrement, même si, attention, on ne peut même pas parler d'alerte orange, on peut parler d'une alerte orange moins. Il y a une pente qui n'est pas bonne, mais le taux de chômage reste quand même très bas. Maintenant, il va falloir qu'il se maintienne dans cette zone des 4,2. Ce serait intolérable pour la Fed qu'il monte davantage. Et s'il montait davantage, effectivement, on basculerait en alerte orange, voire rouge, sur une probabilité de récession. Ce qui là, effectivement, et j'arrêterai de dire effectivement, ferait que ce pivot de la Fed en mode urgence, et peut-être ces Jumbo Fed Cut, c'est en gros, pour parler simplement, la Fed qui baisserait ses taux par groupe de 50 points de base, voire 75 points de base. Si la Fed nous passe 0,50, 0,75% de baisse de taux à chaque décision de politique monétaire, c'est qu'elle est en mode urgence, le marché action ne va pas aimer du tout. Du tout. Donc, doit-on craindre un Jumbo Fed Cut? Oui, vous devez craindre un Jumbo Fed Cut. Car il n'y a pas de raison d'empiler des baisses de taux de 50 points de base pour la désinflation. La désinflation, elle est là, elle est en cours, on peut l'accompagner tranquillement en baissant les taux de 25 points de base. Donc là, effectivement, là où ils ont raison, ceux qui veulent le crack, c'est que des baisses de taux trop importantes et trop rapides peuvent être interprétées, redoutées par la haute finance et peuvent avoir un impact baissier sur le marché action. Nous avons besoin, pour avoir un marché action qui entretiendrait sa tendance haussière démarrée en octobre 2022 et sérieusement relancée en octobre 2023, d'une politique monétaire qui devienne accommodante de manière lente, de manière sous contrôle, et systématiquement d'une réserve fédérale qui communique en disant que elle assouplit sa politique monétaire parce qu'elle a repris le contrôle à la gorge du régime des prix, et non pas parce qu'elle perd le contrôle du marché et du travail. Comprenez ? Le marché aime le contrôle, la visibilité. Donc ça, c'est tout l'enjeu de l'événement de cette semaine. Et nous allons avoir toutes les réponses à travers le communiqué de presse, à travers la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed, à travers la conférence de presse de Jérôme Powell. Et je vais vous montrer maintenant où exactement, dès mercredi 20h et une nanoseconde, aller chercher toutes ces informations. Voilà donc ce qui va compter ce mercredi 18 septembre pour décider de l'impact sur les actions et les obligations. US et par contagion sur les titres européens. Tout d'abord, l'amplitude de cette première baisse de taux. 25 points de base versus 50 points de base. Une baisse de 50 BPS, points de base, 0,50%. Ou un jumbo Fed cut. Je mets jumbo Fed cuts si par exemple, d'ici la fin de l'année, nous devrions avoir plusieurs séries consécutives de jumbo Fed cuts. Par exemple, et j'arrête de dire par exemple, pour ce mercredi 18 septembre, à 87%, le marché envisage une seule baisse de taux. Ça serait la même chose le 7 novembre. Mais pour le 18 décembre, nous aurions à 47% de probabilité un jumbo Fed cut, c'est-à-dire d'un coup 50 points de base de baisse de taux. Et ce sera la même chose en janvier. Bon, ça on verra. En tout cas, pour ce mercredi 18 septembre, je vous le répète, ça serait une mauvaise chose d'avoir 50 points de base de baisse de taux. On ne veut pas de jumbo cette semaine. On veut une baisse de taux sous contrôle, rationnelle, prise sans émotion, sans effet d'urgence, et pour la bonne raison, c'est-à-dire la désinflation, la reprise du contrôle du taux de croissance des prix, et non pas un stress vis-à-vis de la dégradation du marché du travail. Ou en tout cas, ne pas laisser transparaître trop. La Réserve fédérale des États-Unis dévoile donc ce mercredi 18 septembre une décision de politique monétaire. Vous êtes sur le site de la Fed, vous êtes ici, vous avez la URL ici, mais c'est pas compliqué, hein. Vous tapez Federal Reserve Press Release, ou vous tapez ça, et vous aurez cette page. Cette page, ce mercredi, à 20h01 nanoseconde, vous ferez F5 sur votre clavier, cette ligne va se garnir. Elle va se garnir, non pas de cheveux comme moi j'aimerais sur mon crâne, mais elle va se garnir de tous ces éléments. Vous aurez donc plusieurs choses. Vous aurez tout d'abord un communiqué de presse et la mise à jour des projections macroéconomiques. Tout va se trouver ici et ici, ici et ici. Alors qu'est-ce qu'on regarde? Tout d'abord, la raison du pivot de la Fed sera le facteur décisif. Jerome Powell devrait le préciser dans le communiqué de presse, qu'on appelle le statement, et lors de sa conférence de presse. Car à 20h30, heure de France métropolitaine, heure de Suisse francophone, il précisera sa pensée dans la conférence de presse. Alors, prenez le dernier compte-rendu de la Fed, le dernier FOMC statement. La Fed commençait comme ça, en disant que le marché du travail restait solide, job gains have remained strong, et que le taux de chômage est resté bas. Il y a donc à peine un mois et demi, la Fed avait archi confiance dans un marché du travail bas. Sauf qu'entre-temps, il y a eu cette petite hausse de 6 millions à 7 millions de chômeurs, de 500 000 nouveaux chômeurs. La question est de savoir, dans le communiqué qui va être publié ce mercredi, tout de suite, première chose que vous regardez, que nous allons regarder, le premier paragraphe. Est-ce que la Fed va nous dire que le taux de chômage est encore bas? Nous avons besoin de lire ça. Si vous voulez, pour le marché action, dans ce premier paragraphe, si la Fed nous dit que l'économie américaine reste globalement solide, qu'elle croît à un rythme modéré et que le taux de chômage est bas, c'est pouce vert pour le marché action. Et si elle justifie sa première baisse de taux, alors, bon, s'il n'y a pas de baisse de taux, on est mort, mais si elle justifie sa première baisse de taux de 25 points de base par further progress in disinflation, vous avez noté l'accent, c'est pouce vert pour les actions. Et globalement, de toute façon, les obligations, ça peut toujours retracer un peu à court terme. Ça a bien monté. Moi, je vous l'ai dit, les obligations, les retracements sur support s'achètent. Tous les retours sur les obligations américaines et les obligations européennes vers les moyennes mobiles simples à 50 et 200 jours s'achètent. Et derrière, il faut tenir un an et viser 20, 25, 30% d'appréciation. Ça, c'est donc la première chose que le marché va regarder. Quelle va être, dans le communiqué de presse, l'appréciation de la Fed sur le marché du travail US? Si, à contrario, dans ce communiqué de presse, statement, Cela commence par nous avons des craintes sur le marché du travail. Le taux de chômage se met à monter trop vite. C'est vrai que la Fed n'envisageait pas qu'il dépasse 4,1% de la population active cette année. Il est à 4,2. C'est pas très loin non plus. La Fed va bien choisir ses mots. Si elle laisse transparaître de la crainte, le marché n'appréciera pas. Par contre, au contraire, nous avons besoin d'un statement qui laisse apparaître de l'optimisme sur la désinflation. Mais ça, il n'y a pas de sujet. Même si la mise à jour du CPI la semaine dernière a été un peu décevante en version sous-jacente, nous en connaissons la raison, je vous l'ai expliqué en début de vidéo, c'est cette inflation immobilière, cette composante immobilière du CPI qui est en lag, qui est en décalage, ça devient même absurde. Une méthodologie absurde qui fait que l'inflation immobilière officielle est 5 fois supérieure à ce qu'elle est là actuellement dans la réalité si vous allez signer un nouveau bail aux States. C'est absurde. Mais c'est en même temps à la fois absurde et en même temps on a de la visibilité, comme je vous l'ai expliqué. Puisque nous savons que ces données temps réel vont, mois après mois, venir faire baisser le CPI immobilier officiel. Shelter, housing, rent, c'est pareil. Rent pour les loyers. L'inflation des loyers immobiliers. Alors parfois on parle de l'inflation housing, l'inflation shelter, c'est pareil. Le sujet finalement est là. Quelle lecture la Fed a de cette dégradation estivale légère du marché du travail? C'est pourquoi je pense qu'effectivement, la Fed ne passera pas cette semaine un jumbo Fed cut. Si elle nous met 50 points de base dans la figure de baisse, il n'y en aura pas une bonne interprétation. Alors, deuxième chose, hyper importante et peut-être la majeure. Vous avez sous les yeux ce qui sera le plus important. Vous avez sous les yeux ce qui sera le plus important à suivre ce mercredi. La mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed. Et je zoome. Cette semaine, la Fed va mettre à jour ses anticipations de taux de croissance du PIB américain réel. Ses anticipations pour le taux de chômage aux États-Unis. Ses anticipations pour l'inflation PCE nominale et l'inflation PCE sous-jacente. Actuellement, le PCE nominal est à 2,5 et le PCE sous-jacent est à 2,6. La Fed visait 2,8 cette année. On est déjà sous la cible de la Fed. Nous allons voir, le marché a besoin de voir ces métriques ici baisser. Nous avons besoin de voir que la Fed a confiance peut-être à un retour à 2 dès l'année prochaine. En tout cas, pour justifier le pivot de la Fed et pour avoir un impact haussier sur les actions et les obligations, il faudra l'abaissement des anticipations d'inflation. Mais surtout, le stress du marché s'étant déplacé de la désinflation au marché du travail aux États-Unis, tout est là. La Fed, il y a 2 mois, nous disait que le taux de chômage américain ne dépasserait pas 4% de la population active cette année. Or, il a atteint 4,3 avant de rebaisser à 4,2 en août. Ça se joue ici, mes chers amis. Ici. Si la Fed confirme que pour 2025 et 2026, le taux de chômage américain ne dépassera pas les 4,2, 4,3, tout ira bien. Si la Fed revoit en hausse significativement ses anticipations de taux de chômage et justifie des baisses de taux agressives du fait de la remontée du taux de chômage, le marché actions n'appréciera pas du tout. Par contre, les obligations exploseront à la hausse. Voilà donc, et bien sûr la Fed doit absolument confirmer une croissance autour des 2% pour le PIB réel américain. Ça c'est la base. Si la Fed confirme ça, c'est qu'elle n'anticipe pas de récession et c'est donc qu'elle veut pivoter pour une raison saine et c'est ça que veut voir le marché action. Et je vous renvoie vers donc ce tableau que je vous représente à nouveau, où je vous expliquais Est-ce faut-il redouter ou voir comme favorable ce pivot de la Fed qui va avoir enfin lieu ce mercredi 18 septembre? Tout est une question d'anticipation du taux de chômage et de l'inflation aux États-Unis. Alors, taux de chômage slash croissance économique et inflation. Et donc, si cette semaine, la Fed revoit en hausse ses anticipations de chômage, nous allons rentrer dans ces deux cases avec un impact très baissier pour les actions du fait d'une augmentation de la probabilité d'une récession économique ou d'un scénario de stagflation. Nous ne voulons pas ni de récession économique, ni de stagflation, ni récession, ni stagflation. Car si c'est le cas, les actions dorment. Mais au final, regardez qui est gagnant dans tous les cas, les obligations. Ça, c'est bon. Alors, bien sûr, les obligations ne sont pas gagnantes s'il n'y a pas de pivot. C'est-à-dire que là, forcément, si la Fed ne baisse pas ses taux cette semaine, c'est compliqué. C'est inattendu. Le signal serait archi mauvais, à la fois pour les actions et les obligations. C'est presque le scénario signe noir. Parce que plus personne, tout le monde anticipe à 100% un pivot de la Fed cette semaine. La fin de l'inversion de la courbe des taux, alors attention. Alors de quoi parlons-nous? La fin de l'inversion de la courbe des taux, effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'une courbe des taux inversée? C'est lorsque vous avez des taux courts supérieurs à des taux longs. La logique monétaire du marché du crédit, mais ça vous raisonnez par exemple par rapport à vos crédits immobiliers, crédits à la consommation, les taux d'intérêt à long terme sont supérieurs aux taux d'intérêt à court terme. Sinon, c'est qu'il y a une difficulté macroéconomique, une distorsion globale macro quelque part. Systématiquement dans le passé, là j'ai fait donc la différence entre le 10 ans américain et le 2 ans américain, si la soustraction entre le 10 ans moins le 2 ans est négative, c'est que nous sommes en inversion de la courbe des taux, sous zéro, ça veut dire que les taux courts sont supérieurs aux taux longs. Là, c'est zéro. Donc, la courbe des taux n'est pas désinversée. Ce qui désinverserait la courbe des taux, ce qui la repentifierait, serait de voir à nouveau donc un taux à 10 ans largement supérieur et de plus en plus supérieur au taux à 2 ans. Dans le passé, dans les cas de figure du passé ici, ce fut le signal effectivement d'une récession et d'un marché action sous pression. Ce fut le cas dans la majorité des cas, mais pas dans tous les cas. Si la courbe des taux, alors il existe la possibilité qu'elle reste flat autour de zéro, mais si elle devait se désinverser, ça ne serait pas automatiquement une sanction pour le marché action si elle se désinverse lentement et pour la désinflation. Il y a donc ces deux considérations à noter. Si elle se désinverse, si elle se repentifie de manière brutale verticale à cause du chômage, marché action va dropper. Si elle se désinverse ou se repentifie gentiment, tranquillement, pour la désinflation, ça sera à la fois haussier pour les actions et pour les obligations. Indice boursier, analyse technique, un point sur le S&P 500, et ensuite nous faisons un point sur le marché obligataire. Bon, alors le S&P 500, j'ai rien de plus à vous dire, toujours pas de divergence en monthly. Moi, je vous explique que. Voilà, il y aura, c'est à un moment ou à un autre, ces prochains mois, peut-être d'ici fin 2025, une diff tout en haut. Et ce jour-là, voilà, ce jour-là, je me dirais que c'est la fin, mais là, j'attends, voilà, quelque chose de similaire à ce qu'on a vu dans le passé. En hebdo, je pense qu'on est toujours en train. Alors, soit on a fini la 4, soit on la construit encore, mais à la fin, je pense qu'on aura une 5. On a bien dégonflé la divergence baissière dont je vous avais parlé ici de mi-juillet. J'aurais aimé un retest des 50 avant de repartir. Peut-être que ça viendra. Je ne sais pas donc si on a fini la 4 ou pas. Là, ça peut être une grande 4. Peut-être qu'on fera un triangle ou une structure en régular flat ou un zigzag. Bon, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à court terme, ça reste bullish au-dessus des 5400. Je combine ici le système Ichimoku avec l'analyse chartiste. Tant qu'on est au-dessus de 5400, c'est bullish. Si on recasse 5400, si on casse ce bottom, on redroppera violemment à la moyenne mobile à 200 jours. Donc bullish court terme au-dessus de ça, si on casse ça, on va ici. Et là, ça peut être une opportunité de se replacer sur SMA 200, comme ce fut le cas ici en octobre. Marché obligataire, j'insiste, tous les replis s'achètent. Mais j'ai tellement insisté sur le marché obligataire que je pense que vous avez des positions longues maintenant, au moins depuis le printemps dernier, même peut-être avant. Corrélation inversée avec les taux d'intérêt du marché. Nous avons sur les graphiques de long terme des signaux bearish sur les taux lourds, taux courts. Ça ressemble beaucoup aux signaux bearish du premier trimestre 2019. Moi, je vise 3,25 sur le 10 ans américain à horizon 6 mois. Sauf qu'entre-temps, il y aura un rebond technique. C'est toujours pareil. Il faut jongler entre les horizons de temps. Ça commence à diverger en daily. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait un rebond ici. Et ensuite, tomber à 3,25. Ce qui signifie que nous pouvons avoir un petit retracement des obligations avant de reprendre la tendance haussière. Ça a bien monté, ça commence à diverger. Donc, sur l'obligation américaine à 20 ans, un retour par ici vers SMA 50 avant de repumper en direction des 110. Là aussi, hein, vous avez les signaux très long terme archi favorables pour les obligations. Depuis cette dive ici en données mensuelles. En données hebdomadaires avec le système Ishimoku, nous allons avoir enfin un croisement de lagging span après le prix qui dépasse le nuage, venant donner le signal inverse qu'on avait donné ici début 2021. C'est pareil sur l'obligation américaine à 10 ans. C'est pareil sur le bund allemand. Tous les retours vers SMA 50, SMA 200 s'achètent pour viser 20% de hausse de plus. À horizon 6 mois, 1 an. Voilà, chers amis, il ne reste plus qu'à attendre donc les annonces de la Réserve fédérale cette semaine. Encore une fois, les mots, le statement, le communiqué de presse, la mise à jour des projections macroéconomiques, la conférence de presse de Powell. Et derrière, donc, eh bien, nous verrons bien quel sera l'impact sur le marché action, le marché obligataire, ce que je vous débrieferai comme d'habitude chaque semaine. Merci à tous.